Merci.
Alors, donc, ce qu'on va vous proposer d'abord, c'est une petite introduction destinée à donner un peu de matière à la discussion qu'on va conduire ensuite tous ensemble. Demain, ce sera Inès, ce sera toi demain. D'abord, quelques mots sur ce qu'on va faire ensemble ce matin. On va parler de l'union, on va parler du symbole de l'union. Et c'est ce qu'on fait toujours au Sésame, c'est-à-dire que hier, on vous a parlé du silence. Il y a un deuxième élément important et caractéristique du Sésame depuis qu'on l'a créé, c'est la transmission. Transmission, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très simple. On est en ce début du XXIe siècle des héritiers de millénaires de sagesse d'Orient, d'Occident, qui se sont exprimés sur un mode philosophique, littéraire, poétique, mystique, mythologique, religieux, etc. Et on va pas découvrir l'Amérique. Elle a déjà été découverte. C'est-à-dire que on est dans une position, comme chaque nouvelle génération d'êtres humains, qui est une position à la fois intelligente et vivante, dès lors qu'on se met dans la posture d'être ce qu'on appelle souvent ici des héritiers créateurs. C'est-à-dire qu'on a une transmission à recevoir de ceux qui nous ont précédés. Il y a des héritages de sagesse qui font l'objet de la transmission. Et puis ensuite, c'est à nous, sur la base de cette connaissance, de ces héritages, de déterminer par nous-mêmes, pour nous-mêmes, ici et maintenant, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en faire qui puisse nous servir de la manière la plus libre, personnelle et fraternelle, à cheminer spirituellement, à tracer notre propre chemin de sens. Comme le disent les philosophes, penser par soi-même, ce n'est pas penser seul. Voilà. Donc on commence toujours par un moment de transmission, et à partir de cette transmission, on ne la reçoit pas de manière passive, mais on va s'interroger de la manière la plus active et partagée ensemble sur ce qu'on aura reçu comme matériaux traditionnels. Alors on a choisi ce thème de l'union qu'on va décliner en trois temps, un symbole, un mythe et un rite. Aujourd'hui, on va commencer par le symbole. Avant même de parler de ce symbole, sachons que ce thème de l'union est un thème traditionnel à peu près universel, c'est-à-dire que le cheminement spirituel a été présenté dans différentes traditions, présenté et vécu comme un chemin d'union, c'est-à-dire un chemin d'unité, et plus précisément un chemin d'union qui est un chemin de réunion. Et on va le voir dans le symbole que je vais vous proposer ce matin, c'est-à-dire que l'idée maîtresse d'un point de vue traditionnel est que cette union est un retour. Elle est réunion, c'est-à-dire qu'elle est retour à une unité qui est une unité originelle. Avec cette précision que le retour à l'origine n'est pas nécessairement et n'est pas essentiellement un retour vers le passé, puisque le passé, dans les univers traditionnels, n'est qu'un des lieux possibles de l'origine. Un autre lieu possible de l'origine, c'est l'intériorité. Donc revenir vers l'origine, ce n'est pas nécessairement revenir vers le passé. Alors, ce souhait, ce désir d'union, qui est donc au fond un désir de réunion ou un désir d'unité, est probablement constitutif de l'être humain. Pour des raisons qu'on peut considérer d'abord comme des raisons biologiques, voire psychanalytiques. On est sorti du ventre de notre mère. On a vécu donc dans le ventre de la mère une expérience qui est une expérience de d'union avec ce qui n'était pas encore un autre être que soi, avec au fur et à mesure du développement dans le ventre de la mère une différenciation, une individualisation ou une individuation jusqu'à cet événement qui est à la fois libérateur et traumatique de la sortie du ventre de notre mère. Donc on peut simplement, qu'on le prenne au sens littéral ou qu'on le prenne au sens symbolique, l'aventure humaine est marquée par ce processus qui est un processus de séparation, qui est un processus de sortie, qui est donc un processus de désunion. Et si j'étais donc psychanalyste, je dirais que ça suffit à expliquer que, eh bien, dans notre inconscient, il y ait, à partir de cet événement originel, un désir compréhensible, naturel, de retour à une unité. La chose ne s'explique pas, c'est-à-dire le désir d'union ne s'explique pas uniquement sur ce plan-là. D'une manière plus philosophique, je dirais que nous, les êtres humains, nous sommes dotés d'une conscience réfléchie. Et c'est le fait même d'avoir une conscience réfléchie qui nous met à distance des choses, qui nous installe dans une relation avec le monde extérieur d'extériorité, précisément. Je regarde le monde, je regarde les autres et je me sens, par le fait même de cette conscience, je me sens séparé de ce qui m'entoure, non seulement à l'extérieur, mais je me sens aussi souvent, par cette conscience, séparé de moi-même. C'est-à-dire que je suis, pour moi-même, un objet de perplexité, d'interrogation, de doute, d'incertitude. Il y a au moins autant en moi-même d'inconnu qu'il y en a à l'extérieur de moi-même. Et ça, c'est le fait même d'avoir une conscience. Et le fait même d'avoir une conscience peut expliquer que nous, les êtres humains, nous soyons animés d'un aussi fort désir de réunir ce qui est séparé par le fait même, à cause de la conscience, on pourrait dire aussi peut-être grâce à la conscience, d'en être séparé. C'est-à-dire la conscience crée la distance. Bon. Voilà. Et puis ensuite, dans les univers donc traditionnels, donc là cette fois-ci d'un point de vue plus religieux, d'un point de vue plus théologique, d'un point de vue mystique, et je pense aux mystiques de toutes les traditions, que ce soit Ramana Maharshi qui est derrière, que ce soit Saint Jean de la Croix, que ce soit Ibn Arabi chez les musulmans, que ce soit Adi Shankara chez les hindous, parlent tous de la quête spirituelle et de la vie spirituelle dans ces termes-là, c'est-à-dire à partir de cette image fondamentale de quelque chose qui a été séparé et de quelque chose qui cherche à s'unir ou à se réunir, en particulier dans les traditions religieuses, avec le divin, c'est-à-dire non seulement avec plus grand que soi, parce qu'on peut déjà désirer et parfois expérimenter ce qu'on appelle ce sentiment océanique de ne faire plus qu'un avec l'univers. Tout d'un coup, la conscience ordinaire de la séparation s'atténue, voire s'efface, et il y a ce sentiment d'unité qui arrive, qui est cosmique. Vous voyez, un sentiment d'immersion dans ce que les soufis, par exemple, appellent l'océan sans rivage, sans surface, sans profondeur de la réalité. Et cette expérience d'union, donc, ou de réunion, est décrite dans les univers traditionnels comme l'union non seulement à plus grand que soi du côté de l'univers, mais au plus grand absolu, c'est-à-dire au divin, c'est-à-dire à une réalité qui est absolument transcendante, c'est-à-dire qui n'a ni visage, ni forme, ni contour précis, parce que, étant infini, rien ne peut la limiter ou la délimiter. Voilà, donc vous avez une expérience qui part du simple fait d'être sorti du ventre de sa mère, du simple fait d'être conscient, et puis qui peut, je dirais, s'exacerber dans un certain nombre de quêtes mystiques jusqu'à ce désir d'union avec la réalité sans limite de quelque chose qu'on pourrait nommer le divin. Donc chacun a rendez-vous à partir de là, de manière libre, avec soi-même, c'est-à-dire est-ce que je veux faire de mon chemin spirituel un chemin d'union, et si je veux faire de mon chemin spirituel un chemin d'union, à quoi est-ce que je veux m'unir, et de quoi est-ce que je veux me munir pour m'unir, c'est-à-dire comment je vais cheminer sur ce chemin de l'union ou de la réunion. Bref, voilà. Alors, ce matin, on a choisi un symbole qu'on a trouvé chez Platon, qui est le symbole de l'androgyne primordiale. C'est vraiment un symbole à la fois d'unité et d'union. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je vais pas vous lire le texte, je vais vous raconter ce que dit Platon. On est dans un texte de Platon qui s'appelle Le Banquet. On dit généralement que c'est un texte qui est consacré à l'amour, j'en toucherai deux mots à la fin. Socrate n'est pas encore arrivé. Socrate, chez Platon, c'est le maître, le maître spirituel. Il n'est pas encore arrivé. En attendant l'arrivée de Socrate, les convives du banquet à venir commencent à discuter entre eux sur la nature de l'amour. Et à un moment donné, important de cette discussion, un poète va prendre la parole, qui est connu, resté connu dans l'histoire pour avoir écrit une grande ode poétique qui s'appelle Les Nuées, c'est Aristophane. Et Aristophane va raconter le mythe de l'androgyne primordiale. Donc on va écouter ce que disait Aristophane. On est à ce moment-là, Platon, Socrate, c'est la charnière entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. On est en Grèce, on est à Athènes. Et Aristophane dit, à l'origine, l'être humain existait sous une forme et qu'il qualifie de parfaite. Et cette forme, dit-il, était sphérique. Donc l'être humain était constitué, dit-il, de deux formes qui étaient réunies dans une sphère parfaite. Il dit donc que cet être humain avait deux têtes, quatre bras, quatre jambes, et il avançait très 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 vite en tournant sur lui-même. donc il existait sous cette forme parfaite, et c'est ce qu'il appelle l'androgyne primordiale. Pourquoi androgyne ? Parce qu'androgyne, ça vient de deux termes grecs qui ont été réunis. L'andros, c'est le masculin, et gyne en français, enfin ce qui a donné ce suffixe gyne, vient du grec gyn, gyné, qui veut dire le féminin. Donc en fait, c'était un être qui était formé de deux parties complémentaires. Pas seulement masculin-féminin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Platon dit ces êtres sphériques, ces êtres humains originels, sphériques, qui avaient une forme parfaite, étaient de trois sortes. Il dit, il y a ceux qui étaient constitués de deux parties masculines, ceux qui étaient constitués de deux parties féminines, et ceux qui étaient constitués d'une partie masculine et d'une partie féminine. Donc en fait, à l'origine, il y avait trois formes d'unité. Il dit les premiers masculins étaient symbolisés, leur symbole était le soleil, le féminin, leur symbole était la terre, et le troisième, le féminin masculin, était la lune. Parce que, dit Platon, enfin là en l'occurrence Aristophane dit la lune symbolise la rencontre du soleil et de la terre. Parce qu'elle est de nature terrestre, c'est une planète, et en même temps, elle réfléchit la lumière du soleil. Et en fait, il s'est passé, à partir de là, ce qui se passe toujours dans les mythes grecs, voire Prométhée, par exemple, ces êtres humains originels, parfaits, se sont enorgueillis de leur perfection, et ils ont commencé à vouloir escalader les cieux, pour faire un coup d'état métaphysique, si vous voulez, c'est-à-dire, ou devenir calife à la place du calife, c'est-à-dire prendre la place des dieux. Donc ils ont commencé à escalader l'Olympe. Alors ça, quand même, faut pas exagérer non plus, hein. Donc Zeus a considéré qu'il y avait là quelque chose qui était absolument intolérable, hein, que chacun doit rester à sa place, que les êtres humains, ces êtres humains originels, si parfaits soient-ils, devait rester sur la terre et ne pas aller chercher à escalader le ciel. Alors il a pris un glaive et il les a coupés en deux. C'est Zeus, hein, ça, c'est vraiment, ça rigole pas. Donc Zeus les a coupés en deux. Et évidemment, il les a coupés en deux. Donc à partir de là, ça a été vécu par ces êtres humains, donc comme symboliquement un état qui est un état de séparation. Et chaque moitié vivante est devenue une moitié malheureuse. Elle est devenue une moitié malheureuse, c'est-à-dire qu'elle n'a eu de cesse à partir de là que de retrouver sa moitié perdue pour reconstituer l'être parfait, la sphère parfaite de l'origine, c'est-à-dire l'androgyne primordiale. Et donc ces parties séparées, coupées mais vivantes, se précipitaient les unes vers les autres pour essayer à nouveau de s'associer. Mais elles n'y arrivaient pas. Elle n'y arrivait pas. Et à ce moment-là, Zeus discute avec Jupiter. Et Jupiter lui dit quand même, on a eu la main un peu lourde, on a été un petit peu sévère, regarde, ils se précipitent les pauvres les uns contre les autres, et ils essayent de s'unir, etc. Ils n'y arrivent pas. On pourrait peut-être quand même faire quelque chose pour eux. Et à ce moment-là, Zeus lui dit, bah, écoute, vas-y, si tu es pris de pitié pour eux, ou de miséricorde, ou d'amour, fais ce que tu peux pour eux. Alors Jupiter est descendu, et il a reconstitué, à partir des moitiés, des différentes moitiés, il a reconstitué un être, non pas complet, non pas sphérique, mais qui était soit masculin, soit féminin, et les organes de génitaux qui étaient placés derrière, il les a placés devant, c'est ce que raconte le mythe, hein. Il les a placés devant, de telle sorte qu'ils puissent s'emboîter par leurs organes génitaux dans un acte qui était un acte d'accouplement, un acte d'union, et de telle sorte que ces êtres puissent à nouveau vivre, mais de façon momentanée, pendant l'union, pendant l'accouplement, le retour à la sphère originelle, mais d'une manière, donc je disais momentanée, c'est-à-dire que par rapport à l'androgyne primordial, ces êtres ont à la fois l'expérience de l'union et de la désunion, et il y a là-dedans quelque chose qui est extraordinairement dynamique, puisque c'est la possibilité pour eux de se reproduire. Vous voyez ? Voilà. De se reproduire en se mettant deux, voilà. en trouvant une moitié. Alors en fait, à partir de là, comme à partir de tout symbole, la réflexion peut s'enclencher. Ce type de symbole était fait pour être médité, c'est-à-dire que là il est juste raconté, mais il est fait pour être médité. On parlait hier de la méditation. La méditation, c'est, alors même si on est en silence et on est recueilli, ça peut être une méditation sans pensée. Mais ça peut être aussi une méditation en pensée, c'est-à-dire cette capacité qu'a la pensée de rester sur un objet, au lieu de divaguer comme un papillon, vous voyez, de rester sur un objet et d'approfondir comme ça, vous voyez, en restant concentré, le plus concentré possible, sur cet objet. Donc là, il peut y avoir une visualisation de cette histoire qui nous raconte quelque chose en réalité de très important, au-delà donc de son sens littéral. Comment est-ce qu'on va aller vers ce sens important ? En faisant une remarque très simple, qui est que si l'être humain originel est sphérique et qu'il est coupé en deux, ce qui est coupé en deux, c'est son être même. Donc à partir de là, ce qui va lui manquer, c'est pas quelque chose qu'il n'a plus, c'est pas de l'ordre de l'avoir, c'est de l'ordre de l'être. C'est-à-dire que ce qui va lui manquer, c'est la moitié de son être. Et donc il va lui manquer quelque chose d'essentiel, au sens où là, l'essentiel, c'est ce qui permet d'être pleinement. C'est-à-dire que ce qui va lui manquer, c'est l'état, comme on dit en français, de plénitude. Le fait d'être, la plénitude, c'est le fait d'être plein du point de vue de l'être. C'est-à-dire, en réalité, d'être vraiment. Tandis que l'être qui est coupé en deux, à la fois il est, et à la fois il n'est pas. À la fois il est lui-même, et en même temps il est privé de lui-même. En même temps il se connaît, et en même temps il ne se connaît pas. En même temps il sait qui il est, et en même temps il ignore qui il est. Et à partir de là, la quête de l'essentiel, la quête de l'être, c'est justement d'aller vers ce qui nous manque par rapport à cet état originel de plénitude. Alors, je m'arrête sur le mythe de l'androgyne, je termine simplement sur une autre grande image traditionnelle qui est toujours liée à l'androgyne, qui est plus abstraite, et qui figure l'union, c'est-à-dire le passage du 2 au 1, à partir du 1 qui est devenu 2, c'est le triangle. Quand vous vous asseyez en méditation, vous racontez l'histoire de l'androgyne primordial. C'est-à-dire que, vous voyez, dans la méditation, vous êtes en triangle, comme ça. De la même manière, regardez, la Devitara à l'extérieur, la déesse, elle est comme ça, vous voyez ? C'est-à-dire que elle est aussi en triangle, elle est deux, au sens où elle est à la fois dans la méditation et dans l'action, dans la contemplation et dans l'action. Et ce qu'exprime le triangle, d'un point de vue traditionnel, c'est l'état de l'être qui a réintégré son unité primordiale, qui a retrouvé son unité primordiale, mais qui est en même temps deux. Il est un et il est deux en même temps. C'est-à-dire que le chiffre caché derrière le 1 et le 2, c'est simplement le 3. Le 3, c'est cette situation de celui qui est à la fois 1, tout en étant ici dans cette existence 2. 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, l'être humain, vous voyez, j'ai deux mains. Je suis partagé entre le bien, le mal, l'avant, l'après, la souffrance, le plaisir, etc., etc. C'est-à-dire que toute notre existence se passe sous le signe de la dualité. Et dans le désir d'union, il y a le désir de trouver ce qui pourrait être, entre toutes ces choses qui sont duelles, contraires, une complémentarité, une harmonie, voire une unité. Donc quel est l'un dans le deux? Et l'état de plénitude, c'est ça, c'est l'un dans le deux, c'est-à-dire le trois sous la forme d'un équilibre. Ce qui va être symbolisé, par exemple, dans l'hindouisme, mais aussi dans d'autres traditions, par le troisième œil. C'est-à-dire ce point qui est situé à égale distance de la dualité, vous voyez, et qui est, selon les hindous, l'œil de la connaissance. C'est-à-dire l'œil de la connaissance, c'est-à-dire l'œil qui sait comment faire de l'un avec du deux. Comment le bien et le mal, comment la vie et la mort, comment l'avant et l'après sont complémentaires et s'engendrent, au lieu de se heurter. Vous voyez ? Voilà. Et donc, dans la simple posture assise, il y a une image de ce trajet d'existence, pour passer du 1, du 2 au 1, et d'une certaine façon, pour faire 3 avec soi-même. C'est-à-dire que l'idée ici traditionnelle, c'est que pour faire 1 avec soi-même, il s'agit de réussir à faire 3 avec soi-même. Voilà. Donc, de regarder le monde à la fois avec une conscience, un degré de conscience qui est différent, c'est-à-dire que notre conscience ordinaire, comme on l'a dit au départ, elle nous met à distance des choses, elle sépare les choses, elle nous montre les choses en extériorité, et cette conscience peut se subtiliser, s'approfondir, pour nous permettre de voir les choses comme étant à la fois, sans les fondre dans une indistinction, dans quelque chose d'informe, les voir deux, et en même temps voir peut-être ce qui relie ce deux, c'est-à-dire regarder les choses à partir de l'œil de l'androgyne.